Au quotidien, avec Hélène Denis.
h 30, pile. On parlait d'heures, Mathieu et moi. Bon mardi, à 3 jours de l'Halloween, il y a des chats noirs, des vrais, mais beaucoup de faux cette année. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le décor, dans les cours, Mathieu, des chats noirs artificiels, comme on avait les sapins artificiels.
Il y a une maison, ben oui, puis il y a une maison sur ma rue qui décore avec des petits rats noirs.
Des arcs!
C'est assez efficace, parce que le soir, quand je rentre, voilà.
Moi, c'est une des choses qui me dégoûte le plus au monde.
Le rat noir? Ah! Oh!
C'est de ça dont vous parlez?
Oui, mais ouais. C'est comme des écureuils, mais qui vivent pas dans les arbres.
Les écureuils, ce sont des rats avec des queues. mais j'aime bien quand même l'ambiance halloweenesque. Il y a des choses qui sont horrifiantes, comme des pieds sanguinolents. J'ai vu ça aujourd'hui. Des fantômes. Il y a des citrouilles également. Des citrouilles, justement, notre ami Denis-Martin Chabot a eu une entrevue à propos de citrouilles hier, celles qu'on invite à peindre en turquoise pour indiquer qu'on offre des gâteries non alimentaires comme des collants, des petits jeux. Et on peut aussi apposer l'affiche de l'initiative sur une porte, sur sa porte d'entrée aux enfants allergiques. Donc, tout le monde s'amuse à l'Halloween. Pas
c'est
de discrimination.
Exactement. Oui, c'est une bonne idée.
Oui.
Parce que, comme on le disait durant l'entrevue, ben pas moi, mais avec Dominique Seigneur, qui a tellement d'allergies que de trouver des aliments qui sont non allergène pour tout le monde, c'est pratiquement impossible. Donc,
Alors, l'idée d'offrir des petits tatouages, jus, etc., c'est bien pensé. Ça fait 9 ans que ça existe. Mathieu, vous, allez-vous recevoir les petits monstres ou fermez vos lumières?
Je ferme mes lumières. Je suis dans ma cour arrière. Je suis déguisé en noir comme un ninja.
Moi, une certaine Halloween, là, j'avais préparé plein de sacs avec des sacs. Vraiment, là, j'avais le goût d'en avoir. Moi, je m'en étais gardée quand même. J'avais pas eu le choix parce qu'il y avait eu, je pense, genre 3-4 personnes qui étaient passées chez moi. Et ça m'avait quand même déçue.
Mais est-ce que ça passe sur votre rue?
Ça passe beaucoup, mais on dirait que ça sonne moins chez moi, là, parce que j'habite pas une maison. Là. Je suis au deuxième, troisième, je sais
plus. Vous êtes au rez-de-chaussée, oui.
Mais c'est ça, c'est quand même plate, là, de garder, de rester avec tous ces bonbons-là.
Comment ça qu'on n'en a pas vu, de ces bonbons-là, nous?
Mais je ne sais même pas si j'étais à l'antenne à ce moment-là. Mais ça fait partie quand même des souvenirs peut-être un petit peu décevants de l'Halloween, là. Mais sinon, j'aime bien cette fête. Est-ce que vous êtes du genre à vous déguiser? Vous m'avez déjà dit non.
Non.
Vous n'aimez pas vous déguiser?
C'est pas particulièrement une fête que je particulièrement...
Votre fête préférée?
Ben, c'est Noël.
Ah oui, c'est Noël.
D'ailleurs,
ça sent
notre collègue José m'a écrit ce matin, dans 2 semaines, c'est l'installation des lumières de Noël.
Oh non!
Lumières extérieures.
José est pressé, hein?
José, il y a un temps où on peut lui en parler, et là, ça commence à être le temps où on peut... Okay. Sinon, ça le...
Bon, on salue, on l'appelle encore notre collègue,
ben oui.
Même si elle travaille ailleurs, mais elle nous écoute, elle est fidèle. José, on vous salue. Alors, et je salue aussi Denis-Martin Chabot qui était là hier. J'apprécie beaucoup sa présence, et vous aussi, j'en suis convaincue. Aussi, qu'est-ce qu'on aura à l'émission? Les actualités, bien sûr. La chronique économie avec Michel Poitevin qui parlera de taux directeur puisque la Banque du Canada annoncera son taux directeur demain. On parle d'abaissement, on verra bien. Et si on a le temps, mais j'imagine qu'on aura le temps, Michel va aborder les élections municipales parce que c'est bien important. Il y a eu jour de vote par anticipation dimanche dernier et le jour de l'élection qui s'en vient dimanche 2 novembre de 10h à 20h. Le livre Québec 70, peut-être que vous connaissez le principe, il y a eu Québec 90, Québec 80 et maintenant Québec 70, on reçoit le co-auteur de ce livre, Tristan Demers, dessinateur, auteur, animateur, qu'on connaît depuis toujours, hein, lui qui a commencé sa série Gargouille, je pense qu'il y avait 10 ans. La chronique livre avec Anne-Marie Aubin qui nous présente un livre qui est sorti en 2024, qui est toujours extrêmement pertinent et bouleversant, même pas morte, c'est Geneviève Rioux, qu'on a déjà reçue en entrevue ici. Je pense que c'était Marjorie qui l'avait reçue, Mathieu. Est-ce que vous avez souvenir? Parce que je me souviens que vous m'aviez parlé de cette invitée et vous étiez bouleversée par sa présence et ses propos. Le gros flash mauve, ça, c'est une chanson de Plume la Traverse qu'on va peut-être vous offrir si vous êtes gentil et si vous êtes à l'écoute jusqu'à la toute fin de l'émission. On part avec une nouveauté. Voici Juste Robert.
J'ai entrepris une thérapie. Je peins des poèmes sur des bouts de bois. Des caribous, des lièvres et des loups sur rendez-vous avec la lune. Je priorise les paysages où les amoureux sont seuls au monde. Heureux n'ont pas d'histoire, rien pourra créer à sa maman ou son papa, rien sur la théorie des cordes et sur comment défaire les nœuds sur rendez-vous avec la lune, les caribous, les lièvres et les loups, les animaux sont seuls ensemble. Des souvenirs de nous plus vieux. Tu me dis que le temps n'existe pas.
Juste Robert et sa chanson « Je peins des poèmes ».
Merci. À la une de la presse plus, la presse en Corée du Sud, cérémonie de lancement du premier sous-marin KSS-3 la semaine dernière, enquête de sous-marins et entre parenthèses et de nouveaux amis, Mark Carney est attendu avec impatience cette semaine dans le pays asiatique où l'on sort le grand jeu pour séduire le Canada qui veut rebâtir son industrie militaire et réapprovisionner son armée. Un reportage de Laura Julie Perrault, un tête-à-tête Mark Carney, Xi Jinping au menu. Aussi, on parle de baseball, tout un match. On écrit le match le plus fou de l'année, point d'exclamation. Ça a duré presque 7 heures. Ça s'est terminé entre 2 et 3 heures du matin. Je ne l'ai pas suivi jusqu'à la toute fin. Les Blue Jays s'inclinent en 18e manche contre les Dodgers. Et ils recommencent ce soir. On leur souhaite la victoire aux Blue Jays. Sous influence, Mariana Mazza, version acoustique, l'humoriste parle des œuvres qui l'ont marqué à Marc Cassivi, notamment de la chanson « Plus rien » des Cowboys fringants. Elle dit que cette chanson a changé sa vie et aussi du documentaire « This is it » qu'elle regarde et qu'elle regarde à nouveau. Elle juge que ce documentaire sur l'ultime tournée de Michael Jackson est un chef-d'œuvre. Bouleversant, un bébé abandonné retrouvé mort à Longueuil, la mère arrêtée. Un nouveau-né a été retrouvé sans vie dans un abribus à Longueuil lundi au petit matin alors que la température avoisinait les 3 degrés Celsius. La mère de 33 ans a été arrêtée quelques heures plus tard. L'événement a profondément bouleversé les habitués du quartier, et pas seulement que les habitués du quartier. C'est à la une du Devoir également, cette histoire tellement triste. Une femme arrêtée après la mort d'un bébé abandonné. Une femme de 33 ans qui a été arrêtée donc en lien avec le nouveau-né trouvé mort dans un abribus à Longueuil lundi matin. Selon nos informations, elle serait passée par une ressource qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance avant la découverte. Un suivi de sa santé psychologique et physique sera effectué. Le décès du bébé a été constaté plus tôt lundi, après que le nouveau-né a été découvert vers 6h30 à la suite d'un appel au 911, témoignant de sa présence dans un abribus dans le secteur du chemin de Chambly, à la hauteur de la rue Bridge. La femme qui a été transportée en centre hospitalier afin d'assurer sa sécurité physique et psychologique pourrait faire face à des accusations d'infanticide, a souligné l'agente Jacqueline Pierre, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Le Code criminel canadien stipule qu'une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né. L'identité de la femme arrêtée ainsi que les détails sur celle du bébé n'a pas été partagée par les forces policières en raison de l'enquête en cours. Les circonstances dont le lieu entourant son interpellation par le SPAL demeure aussi inconnue du public, le SPAL, qui est le service de police de l'agglomération de Longueuil. Bataille locale, Amad ne soumettra pas son SRB+ à la consultation populaire. Adversaire infatigable du tramway de Québec, Sam Amad annonce sa mort dès le 2 novembre si la capitale lui confie les clés de la mairie. L'ancien ministre propose de lui substituer un SRB+ chiffré à 4,2 milliards de dollars qui n'aura pas besoin, à ses yeux, de consultation populaire pour aller de l'avant puisqu'il s'agit tout simplement d'un réseau d'autobus amélioré. Et je le cite, « Notre projet, il n'a pas besoin de sondage », souligne le chef de Leadership Québec en entrevue avec Le Devoir. C'est un réseau d'autobus pour desservir les banlieues avec la haute ville, tout simplement. C'est qui est contre conserve le monde. Deux kiki ici. Et puis à la une du Devoir toujours de ce 28 octobre 2025, Carney inaugure la relation chinoise de l'après-Trudeau. Lors du dernier débat des chefs, Mark Carney a qualifié la Chine de plus grande menace à la sécurité du Canada. Voilà que le premier ministre doit rencontrer cette semaine le président chinois Xi Jinping dans l'espoir de tourner la page sur les années Trudeau qui ont malmené la relation entre les deux pays.
Partageant la mort, c'est d'un sou. j'arpente des rues anciennes et j'éloigne chaque seconde qui s'accroche au passage en les partageant la
L'aboutissement, une chanson de Julie Hamelin.
Je poursuis avec maintenant la une du Journal de Montréal. Champion du harcèlement, un Montréalais a été reconnu coupable de harcèlement après avoir provoqué 93 alertes avec son bracelet anti-rapprochement en un peu plus de 2 mois dans le but de terroriser son ex-conjointe. En avril 2024, Andrew Ishin Sakrani est fraîchement sorti de prison pour avoir mené pendant plusieurs mois une campagne de harcèlement visant à détruire psychologiquement et financièrement son ancienne copine. Plutôt que de tourner la page, l'homme de 42 ans a continué de lui faire vivre l'enfer en utilisant malicieusement son bracelet anti-rapprochement, supposé prévenir les récidives en matière de violence conjugale. Sakrani, un entrepreneur et physiothérapeute, a circulé à 93 reprises en seulement 66 jours dans des zones géographiques de pré-alerte, soit tout près de lieux où sa présence était interdite. De façon générale, une centrale de surveillance est systématiquement informée quand un contrevenant empiète sur ces secteurs. La centrale doit alors l'appeler pour connaître sa destination et éviter qu'il rencontre son ancienne partenaire à son domicile. Une intervention policière peut être déclenchée. Andrew Ishin Sakrani, lui, n'était pas collaboratif au bout du fil. Même s'il ne connaissait pas les dimensions exactes des zones de préalerte, l'accusé avait tendance à ignorer les itinéraires suggérés par la centrale, a relevé le tribunal. Selon un agent de probation, le quadragénaire refusait de faire le nécessaire pour s'assurer que le bracelet anti-rapprochement ait les effets de protection désirés. Il était surtout conscient du risque vraiment réel que la victime soit avertie à chaque fois, a récemment conclu la juge Mary Springate. Ainsi, Sakrani a délibérément, obstinément et à plusieurs reprises poursuivi son comportement en circulant très près des zones prohibées avec un mépris complet du sentiment de sécurité de son ex-conjointe. La centrale de surveillance a même dédié toute une équipe pour suivre les faits et gestes de Sakrani. D'ailleurs, à cause d'une brèche de sécurité, l'accusé en serait venu à croiser la plaignante sur la route à au moins une reprise. Il faut savoir que dans la même période, Sakrani a utilisé Internet afin de générer une foule de numéros de téléphone et appeler la victime sur son lieu de travail à des centaines de reprises. Il a aussi fait des plaintes sans fondement à son ordre professionnel. Sakrani a finalement été arrêté et inculpé vers la fin juin 2024. Le Montréalais revient en cour en novembre. La couronne, représentée par Maître Thierry Sabourin, demande de 3 à 4 ans d'emprisonnement. Maître Thomas McKenzie de la Défense estime que la détention préventive de son client depuis son arrestation a été suffisante. Si vous avez besoin d'aide, SOS Violence Conjugale, 1-800-363-9010, 1-800-363-9010.
Thank you.
un premier médicament contre l'Alzheimer approuvé, un premier médicament pour ralentir la maladie d'Alzheimer vient d'être approuvé par Santé Canada, mais son coût élevé pourrait restreindre son utilisation. C'est Hugo Duchesne qui signe cette chronique, cet article plutôt, dans le Journal de Montréal, mais on en parle ailleurs dans l'actualité, dans d'autres journaux. C'est une nouvelle extraordinaire pour les patients, se réjouit le neurologue Robert Laforce, qui ajoute que l'attente était devenue dérisoire. Le Canada est le 52e pays au monde à donner son aval au lecanemab, commercialisé sous le nom de Leqembi, L-E-Q-E-M-B-I. Il a été approuvé pour les personnes atteintes d'une forme précoce de la maladie et avec une disposition génétique. Le médicament pourrait ralentir la progression de la maladie de 10 à 13 mois et ralentir le déclin cognitif sans toutefois l'enrayer. Il agit sur les plaques amyloïdes qui se forment dans le cerveau associées à la maladie d'Alzheimer. Le docteur Laforce ignore quand les premiers patients pourraient recevoir le traitement. Ils devront être triés sur le volet pour répondre aux critères établis par Santé Canada, poursuit le docteur Laforce. Si on gagne une année de santé cognitive, c'est énorme, lance le neurologue et chercheur au Centre hospitalier universitaire, le CHU de Québec. Le traitement de lecanemab dure 18 mois avec une injection toutes les deux semaines et les effets secondaires incluent un risque d'hémorragie cérébrale. Les patients devront faire l'objet d'un suivi serré avec des scans fréquents du cerveau. Le neurologue de Sherbrooke, Christian Bocti, est moins emballé par ce nouveau médicament dont l'effet est minimal sur le déclin cognitif. Il comprend l'engouement puisqu'il s'agit d'un premier médicament depuis près de 20 ans contre la maladie d'Alzheimer. Mais selon lui, les effets secondaires potentiellement dangereux, les coûts élevés et les besoins d'examen fréquents seront un énorme fardeau sur le système de la santé. L'effet positif n'est pas assez grand pour justifier ça, dit-il. C'est le neurologue de Sherbrooke, Christian Bocti, qui dit cela. Selon le docteur Robert Laforce, la compagnie pharmaceutique fournira des doses à des équipes médicales, mais les prix éventuels devront être négociés par les provinces. Son coût pourrait être un frein. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a déjà publié un rapport soulignant que le médicament pourrait coûter 40 000 $ par patient pour 18 mois et entraîner des dépenses d'environ 83 millions de dollars sur 3 ans pour le gouvernement.
Hemra rank dem drive around war le mode pile kai say Hemra daware jun dir le drive rasir le highway bitul mod partia yar me foudram tue ma mor fra point tro dan un Hemra daware John Deere J'suis bon un homme compliqué Hemra rank le monde way mon tracteur Qui is diesel ça c'est pas mal way On ira dans le grand désert Semer des graines pour que tout le monde peut manger J'aimerais d'avoir un John Deere
avec des roues plus hauts que ma tête. Or ma manche sera des rocket coasters, puis m'en ira droit dans leur space. Il dit de rien au sado qui fabonne. Avons plus besoin de se demander si Kava et John Deere n'auraient plus besoin de mourir. Si Kava et John Deere ne montrent point si compliqué.
Petit Béliveau, j'aimerais d'avoir un John Deere.
Ben oui, c'est pas une faute, là. J'aimerais d'avoir un John Deere. Je sais pas s'il est venu en John Deere, je vous pique votre joke, Mathieu, parce qu'il est à Montréal tout récemment pour donner un spectacle Petit Béliveau. À venir, la chronique économie en compagnie de Michel Poitvin, une rencontre avec Tristan Demers.
Vous pouvez rejoindre. Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et merci beaucoup de le faire. On est ensemble jusqu'à 11 heures. Michel Poitvin est au bout du fil. Michel, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, fidèle au poste pour sa chronique économie. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors, on commence avec la Banque du Canada qui annoncera son taux directeur demain. À quoi on peut s'attendre?
Oui, c'est une décision attendue. Là, demain, la Banque du Canada va annoncer le taux directeur. On se rappellera qu'en septembre, la banque avait baissé d'un quart de point de pourcentage le taux directeur. Il est maintenant à 2,5. Alors qu'on frôlait les 5 là, à l'issue de la COVID il y a quelques années. Mm-hmm. On peut rappeler le rôle de la Banque du Canada, c'est de maintenir l'inflation autour de 2. Donc la Banque du Canada, là, avec le taux directeur, elle veut maintenir l'augmentation des prix, l'inflation autour de 2. On ne veut pas être trop bas, on ne veut pas être trop haut non plus. Mais ça, c'est plus compliqué qu'on pense parce que l'inflation, c'est le changement dans les prix. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de l'activité économique. Puis surtout, quelle va être l'activité économique dans le futur? Donc, il faut regarder les chiffres d'emploi, le chômage. Puis si on pense avoir trop, en guillemets, trop d'activité économique, ça peut générer de l'inflation parce que ce que ça veut dire trop d'activités, ça veut dire que la demande est forte, les gens demandent beaucoup de biens, puis peut-être que le secteur de la production ne fournit pas, et donc là, ça peut faire une pression à la hausse sur les prix. Donc ça, c'est le premier enjeu dont il faut tenir compte. Évidemment, il y a la politique commerciale avec les tarifs. Les tarifs ont des effets sur les prix des biens qu'on achète à l'étranger, mais aussi sur l'activité économique, parce que si on exporte moins, on produit moins chez nous, et donc ça peut faire relâcher un petit peu les prix. Alors, faut regarder ça aussi. Puis finalement, un autre facteur qui est important, c'est celui de la politique budgétaire. Donc, on appelle ça souvent le levier fiscal. Les gouvernements, avec leur budget, peuvent intervenir dans l'économie pour stimuler parfois au besoin l'activité économique, donc l'économie canadienne dans notre cas. Par les dépenses publiques. Alors, plus on dépense, plus le gouvernement dépense, mais qu'est-ce que ça veut dire dépense? Ça veut dire que le gouvernement achète des biens et services. Donc, ça stimule l'activité économique. Puis ça peut avoir un effet inflationniste. Alors, il faut tenir compte de ces trois facteurs-là pour la Banque du Canada tient compte de tous ces éléments-là, oui, avant de décider de sa politique monétaire.
Et qu'est-ce que les indicateurs révèlent sur l'activité économique, Michel?
Et c'est ça. Donc, on voit au cœur de ces facteurs-là, c'est l'activité économique. Ce que ça révèle, au premier trimestre, l'économie canadienne a cru légèrement d'à peu près 1,5 point de pourcentage. Donc, ça nous donnait sur une base annuelle 2 % là, il y a 4 trimestres. Donc, un demi-point pour un trimestre, fois 4, ça fait 2 %. Mais au deuxième trimestre, on a eu une contraction de l'économie canadienne, c'est-à-dire que l'activité économique a baissé. Donc, notre produit intérieur brut qui mesure l'activité économique a baissé de 0,4 %. Ce qu'il y avait, puis aujourd'hui, on en sait un peu plus sur cette baisse-là. On a le détail des chiffres. Les exportations et les importations ont baissé énormément, entre autres dans le secteur de l'automobile, l'aluminium et l'acier. Puis ce sont trois secteurs qui sont touchés directement par les tarifs américains. Et notre excédent commercial, donc l'excédent commercial, c'est la différence entre ce qu'on vend à l'étranger et ce qu'on achète de l'étranger. Donc, avec les États-Unis, avant, on vendait, au premier trimestre, on a vendu pour à peu près 31 milliards de plus aux États-Unis qu'eux ont acheté. Donc, la différence entre la valeur de ce qu'on a acheté versus ce qu'on a vendu aux Américains, c'était 31 milliards. Au deuxième trimestre, on est autour de 10 milliards. Donc, c'est une baisse significative de notre commerce avec les Américains. Mais en même temps, ça se peut que le premier trimestre a été un peu les chiffres plombés par le fait qu'en anticipant les tarifs, il y a beaucoup de gens qui ont devancé. Par exemple, aux États-Unis, on a acheté plus de biens canadiens au premier trimestre parce qu'on savait qu'au deuxième trimestre, il y aurait des tarifs. Alors, c'est vraiment peut-être la suite, là, ce qui va se passer dans le reste de l'année qui va nous donner un portrait un peu plus juste de ce qui se passe au niveau du déficit commercial avec... nous, c'est un excédent commercial avec les Américains. Je parlais d'activité économique. Une bonne nouvelle, c'est que la consommation par les ménages canadiens, donc la consommation intérieure, reste forte. Donc ça, ça nous dit que les consommateurs ont confiance dans l'économie. Les marchés financiers vont relativement bien. Donc, quand la bourse va bien, il y a beaucoup de gens qui se sentent plus en confiance. Ils disent « Ah, ben là, mon portefeuille a plus de valeur, puis on se sent plus en confiance de dépenser. »
C'est comme l'appétit, ça. Quand la bourse va bien, tout va bien.
Ben, c'est ça. Quand l'appétit va, tout va.
Oui, c'est ça. Alors, on peut s'attendre à une baisse de taux?
Probablement. C'est ce que les économistes prédisent. On voit que l'activité économique là, elle a baissé un peu. Ça s'est traduit par un taux de chômage un peu plus élevé. Par contre, l'inflation nous donne un portrait différent. Là. Elle a augmenté en septembre de 1,9 % où elle était au mois d'août à 2,4 % pour le mois sur une base annuelle pour le mois de septembre. Est-ce que l'inflation repart? Donc, il y a des signaux contradicteurs. Donc, au niveau de l'activité économique, il semble avoir une espèce de baisse un peu. Par contre, l'inflation augmente. Alors, la Banque du Canada doit essayer de décortiquer tout ça, mais j'ai l'impression qu'avec les tarifs qui n'arrêtent pas, puis Trump a annoncé des nouveaux tarifs de 10 % là, supplémentaires sur les biens canadiens, je pense que la banque va être prudente, puis probablement baisser un petit peu son taux d'intérêt, là, c'est ce que les économistes attendent demain, peut-être d'un quart de point.
Parfait. Donc, on va suivre ça. C'est demain, c'est toujours dans l'après-midi, me semble, hein? Ben, je veux pas.
Je pense que oui, je pense que c'est dans l'après-midi. C'est les chiffres d'inflation qui sortent le matin. Je pense que les taux d'intérêt, c'est un peu plus tard dans la journée.
D'accord.
Effectivement.
Et pour terminer, Michel, il y aura des élections municipales dimanche, le jour de l'élection dimanche 2 novembre.
Exactement. Donc, c'est important d'aller voter. Les municipalités, c'est des gouvernements de proximité. Ça touche directement notre vie, là, qu'on pense aux ordures, ramassage des ordures, le déneigement, la circulation.
On est dans le concret ici, là.
Les bibliothèques, c'est ça, là. C'est vraiment, ça nous touche directement. Bon, je suis sûr que vous en avez dû en parler avec d'autres. Les principaux candidats, il y a Mme Soraya Martinez-Ferrada d'Ensemble Montréal, M. Craig Sauvé de Transition Montréal, Luc Rabouin de Projet Montréal, là, qui est le même parti que la mairesse sortante.
Oui, il reprend le flambeau.
Exactement.
De Valérie Plante,
très, très juste. Et puis Gilbert Thibodeau d'Action Montréal, les principaux candidats. Au cœur du débat, là, si vous regardez ça, puis on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais on parle de pistes cyclables, de cônes orange, de mobilité. C'est-à-dire, à chaque élection, on a l'impression qu'on parle de ça. Et l'itinérance prend une place importante également à ces élections municipales. Moi, ce que j'aimerais bien, j'aime beaucoup l'approche de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. qui, elle, dit « Moi, je veux rien faire de neuf, je veux juste arranger le vieux. » Je paraphrase un peu. Là, mais,
ça fonctionne parce qu'elle occupe le haut du pavé dans les sondages.
Non, exactement. Puis moi, ça fait plusieurs campagnes municipales. Je me dis, moi, ce que je rêve, c'est d'une campagne où les candidats vont dire « Moi, je n'ai aucun projet. » Puis c'est un peu ça, c'est l'idée. On va arranger ce qu'on a, puis après ça, ouais. On verra.
C'est difficile de ne pas avoir de projet quand le nom du parti, c'est Projet Montréal.
Entre autres. Mais je pense que c'est juste avoir une bonne gestion de ce que la ville doit faire actuellement là, sans avoir d'autres choses, je pense que c'est la bonne approche. Ouais. Alors, il faut que les gens aient s'informer. Il y a différentes plateformes là, qui nous parlent des programmes, des partis, notamment la plateforme web de Radio-Canada. Puis, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Il faut s'informer puis aller voter dimanche. C'est important. Là. Souvent, le taux de participation aux élections municipales est faible, mais ça nous touche directement. C'est important d'y aller.
Merci de ce rappel et de cette invitation. Michel, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou! En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Ouh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today. Le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul, comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi.
Ça plane pour moi, une chanson de Plastic Bertrand.
Et oui, ça nous met dans l'ambiance pour parler du livre Québec 70, écrit et réalisé par Tristan Demers. Bonjour, qui est en studio.
Bonjour, avec mon complice Ghislain Tachereau.
J'allais le nommer, il ne faut pas l'oublier. Ben peut-être qu'il est à l'écoute, qui sait s'il est à l'écoute, mais on le salue. Mm-hmm. Tristan, merci de vous être déplacé pour cette entrevue.
C'est un plaisir.
C'est donc un livre que vous qualifiez de ludo-nostalgique.
Oui.
Un mot que vous avez inventé?
J'invente souvent des mots comme ça qui peuvent, ou en fait, des espèces de contractions de sentiments ou d'impressions sur un projet. Puis on voulait en faire un livre-objet agréable à consulter, une espèce de livre table à café qu'on laisse traîner dans le salon et qu'on lit tranquillement à l'approche du temps des fêtes. Mine de rien, on est bientôt en novembre, alors ça, c'est parfait.
Mission accomplie.
Ben, beaucoup de couleurs, comme l'étaient ces années-là, cette décennie 70 qui était presque psychédélique. Hein. Il y avait, oui. Ben, en fait, c'était ça, c'est l'explosion.
La continuation des années 60.
Oui,
hein,
puis on est après l'expo. Exactement, ouais. On est après l'expo. Donc, il y a une espèce de, décadence. On est décomplexé d'inventer sur
tout
le plan
possible.
Musical. Tout oui. est possible. On n'est pas dans la crainte. Puis on n'était pas au courant dans ce temps-là que quelqu'un pouvait nous haïr. Ce qui fait que ça ne freinait pas notre rapport créatif ouais. avec l'autre. Tu sais, il y avait ça aussi,
on
pas de réseaux
jeune,
sociaux.
On était
exactement.
Innocents.
Voilà,
dans le
bon
sens.
Oui, oui. Il y avait une candeur.
Vous étiez
là.
Né dans les années 70?
Je suis né en 72. Moi, okay. c'est ma petite enfance, alors que mon collègue... Qui
lui est
c'est
dans les années 60.
Exactement. Qui lui, moi, je dis en blague, j'achetais des couches, lui, des condons. Là, où je rentrais en maternelle, lui, cruisait au cégep. On n'était vraiment pas à la même place. Mais ça donne un livre où notre rapport à ce livre-là, il est complémentaire. C'est-à-dire que moi, je regardais Passepartout... Tout ce qui est jouet, parce que c'est ça, hein, il y a 12-13 chapitres mm-hmm. dans le livre, on parle de jouets, de bouffe, de
vous
mode.
C'est large.
Ben voilà, puis moi, ouais. mes habits de neige, puis mes mitaines, les foulards, maintenant interdits, on est avec les cache-cou depuis longtemps
ah,
dans
oui.
les écoles. Il y a plein de petits détails comme ça qui nous ramènent à l'époque, on comprend le chemin parcouru. Ça nous permet de jeter un regard dans le rétroviseur, puis de se dire, ben écoute, c'était ça, c'était... C'est vraiment une explosion de création, les
Mais
années
60.
Mais
comment vous avez fait ce travail-là à deux, là? Parce que y a, justement, vous ratissez large, comme mm-hmm. on le disait, vous parlez de télévision, de spectacle, de nourriture, de cinéma. Il y a toutes sortes de sujets, des Jeux olympiques de 1976 à Symphorien, en passant par la poupée Raggedy Ann, ma sœur avait une collection.
Ah, oui.
La boule disco, j'ai adoré le disco, les longs jeux de ah, Beau oui. Dommage.
Voilà, qu'on... parce qu'on peut être grano ou disco.
Oui, mais moi, j'étais les deux, on dirait.
Bah, c'est bon,
j'ai
ça.
J'ai eu mon époque disco.
Un bel équilibre.
J'étais chez les
Robes en terre cuite et patis galant oui. à la fois. Pourquoi pas aux boules noires.
Je dansais avec mes kickers sur More.
Ah, mais... Bon, on alors, a séparé ça. Moi, je le fais. C'est mon troisième livre de la collection.
Oui.
Hein. Le premier, je l'avais fait avec Jean-Sébastien Girard. C'était Québec 80. Il y a 4 ans de ça qui a bien marché. Ensuite, avec Ghislain, c'est mon deuxième tome. C'est-à-dire qu'on a ensemble divisé le travail comme ceci. C'est-à-dire que lui s'occupe des entrevues, de contacter les différents artistes. Et je dois le nommer là-dedans. On a du monde qui sort pas souvent.
Hey,
on
moi,
a
là,
Plume.
J'étais vraiment, vraiment impressionnée par tous ceux et celles que vous avez pu...
Par la brochette. Ça, c'est Ghislain qui a un charisme et un sens...
Yvon Deschamps, vous
ben
l'avez
oui.
nommé. Plume Latraverse, Michel Tremblay.
Ouais.
Il y a Louise Deschâtelet, Daniel Ouimet, Shirley Théroux, Nanette Workman,
ben oui.
une de mes préférées, Michel Forget, Clémence, Claude Poirier.
Claude Poirier, ben oui, 10-4.
10-4. Michel Delaurier. Donc, il y a vraiment de belles entrevues
ben oui.
Avec des questions intéressantes aussi. Là. C'est,
ben,
c'est
on essaie
riche.
Les années ailleurs.
Oui.
Puis on parlait de Claude Poirier, anecdotes, parce que quand vient le temps de terminer le livre en soi et de faire la maquette graphique, on rappelle tout le monde et chacun des agents pour avoir la photo dite de casting officiel.
Mm-hmm.
Évidemment, Claude Poirier, il dit « Va sur mon site Internet, pogne une photo de moi, je parle au téléphone, elle me dit une cigarette dans la gueule. » C'est ça qu'il nous a dit. Il dit « Moi, il n'y a pas de... Je n'ai pas de photo. » C'est bon. Mais c'est le personnage.
Oui, pas de filtre, Claude Poirier.
Pas de filtre.
Pas... Non, non.
Puis
faut
il
ne
s'en
fâche
pas d'un fleur du tapis. Puis il a été bien, il a collaboré, bien sûr. Ça a été fort agréable. Puis moi, je me suis occupé de tout le volet recherche.
Mais ça vous tentait pas, Tristan, de faire des entrevues?
Non, moi, mon gros fun,
ouais.
c'est de fouiller dans l'anecdote cachée et de... Parce que j'en ai fait d'autres livres documentaires qui n'ont rien à voir avec cette trilogie-là. J'ai mm-hmm. fait Tintin et le Québec, Astérix ouais. chez les Québécois, Walt Disney il n'y a pas très longtemps. J'ai un projet avec les pierres à feu qui s'en
oh,
vient.
Wow.
Un autre en lien avec la caricature et le dessin de presse au Québec. Bon. Alors moi, ce que j'aime, c'est de fouiller dans les archives, d'aller libérer des droits de photo, de trouver l'anecdote et l'article de journal d'il y a 45 ans ou 60 ans.
Ouais.
Dans le Montréal matin, à quelque part, qui nous amène à un indice qui, lui, me révèle
vous êtes
autre chose.
Un Claude Poirier, finalement.
Mais je dis souvent la blague que j'ai pas la prétention, évidemment, d'être un archiviste ou un historien, mais je crois que j'ai une rigueur journalistique. Et c'est ce que ça prend. L'important, c'est pas tant d'avoir été là dans le temps, mais d'aller chercher, de corroborer ce qu'on va trouver, de parler aux bonnes personnes et d'appuyer nos faits par. En fait, il faut être factuel. C'est mmh. ça l'affaire. Alors, moi, ça, c'est mon gros fun.
Qu'est-ce que
ce qui
n'est
avez... pas le fun de tout le monde. Hein?
Non,
c'est bien de la job.
Vous, là, c'est votre trip en bon français.
Ben oui.
Mais qu'est-ce que vous avez trouvé que vous avez le plus plaisir, que vous avez trépigné ou qui vous a étonné?
Ah, bien, il y a des choses qui vont, bon, on est dans l'anecdote plus qu'autre chose, mais par exemple, je n'étais pas au courant que le colonel Sanders avait fait en 71 une tournée au Québec des Kentucky pour signer au Sharpie, pour dédicacer des barils de poulet.
Ouais,
alors, on a des photos de line-up en bon français de gens qui font la queue pour le rencontrer.
Il y a le petit gars là qu'on voit dans le film...
qui est décédé récemment,
oui,
mais oui, le PFK Kid.
Exact. Pas du PKP.
Mais du...
du PFK.
Un beau lapsus. Des...
hey, franchement.
Je vous laisse ce lapsus-là,
ben oui,
parce qu'on est publié chez Québécois. Fait...
je suis dans un trip psychédélique.
Mais oui.
Oui, oui, c'est dans le thème.
C'est une drogue naturelle, mon livre. Notre
tout
livre.
Tout à fait.
Je pense qu'on regarde ça. Puis on
le voit, le petit
les petits
gars,
poudings, leur à ce corps, avec, bien sûr, à l'invention de la...
je l'ai nommé, là.
De la valise à roulettes, tu sais, des affaires.
Ouais.
Du Paul quotidien.
C'est Paul Ross qu'on,
ah oui,
qu'on
c'est
voit
Paul
manger
Ross,
du
oui, qui est décédé malheureusement récemment.
Oui, oui, oui.
D'ailleurs, pour avoir la photo, je suis passé par le fils de Pierre Falardeau.
Mm-hmm.
Oui. Donc, ben, c'est ça.
Parce que c'est dans le film de Pierre Falardeau. Là,
oui, puis il faut, oui, exactement. Mais il faut aller chercher le droit des images et des ayants droit
combien
de tous
de temps
et
ça
chacun.
Ça vous a pris
ben, ça me prend
ce,
un an et demi faire
album-là.
Un livre comme ça. Donc, là-dessus, je calcule 6 mois de libération d'images. Ben, faut quand même, faut toujours bien l'appeler le conjoint ou la conjointe de la personne décédée si les droits n'ont pas été octroyés à une firme qui gère l'image ou, bon, peu importe. Là,
est-ce
mais
que c'est très compliqué? Est-ce que vous
on
avez plus de oui que de
trucs.
Non?
On a plus de oui, mais des fois, c'est des oui qui sont trop chers pour notre budget. Fait que dans
ah,
ce temps-là...
Ouais. Okay.
Moi, si ça coûte trop cher pour une photo de Dallas, moi, mettre Chop Suey, tu comprends?
Oui, je comprends. Parce que il me semble que moi et l'autre n'est pas là. Ça se peut-tu? Il n'y a pas de photo?
Je ne l'ai pas mis, moi et l'autre, parce que ça a commencé en 67 ou 8, je crois.
Ah oui, d'accord.
Et ça s'est terminé au tournant des années 70. Et on fait des choix hein, quand on...
Oui.
Quand la période chevauche une décennie, puis on s'est dit que c'était plutôt quelle famille, rue des Pignons. C'était vraiment du tac au tac. Hein, parce qu'on parle de téléroman, on parle d'humour. Puis c'est amusant les années 70 parce qu'il y avait l'humour engagé d'Yvon Deschamps, il y avait Paul et Paul, il y avait tranquillement de nouveaux venus qui brassaient la cage sur le plan social et politique. Mais on avait encore le Tigus et Timousse.
Ouais,
on avait encore les jokes de cabaret, puis Claude Blanchard, puis une ligne, un punch, puis à quelle heure on ferme.
Uh-huh. Mais c'était
on
deux
avait
mondes.
Encore...
Vous parliez
c'était
tantôt
deux
du
mondes.
Disco
oui.
Et de la terre cuite.
Exactement.
Et puis là, il y avait les deux, mais on pouvait aussi adhérer aux deux. Comme Jean-Louis Miette, lui, a joué au Théâtre des variétés, comme il a pu jouer aussi des pièces plus sérieuses.
Exactement.
Là.
Ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps, je parlais pour un autre projet avec Monique Miller,
ouais.
qui jouait Tchekhov et qui faisait Bertha dans Flintstone, dans les pierres à feu, pareil. Donc, on passait du joual, du langage de la rue, presque à la Michel Tremblay à Molière ou
et
à peu près.
Pas,
là,
pourquoi
pas?
On
c'est
s'intéresse
ça,
à Éco-Vedette puis on lit Le Devoir.
Oui,
ouais, les deux
mais
sont
ça nous
possibles.
Donne, oui, et ça nous donne une vue d'ensemble.
Une vue d'ensemble.
Exactement.
Ouais.
Ça ne peut qu'être bon pour notre culture générale, à mon avis.
Alors, il y a eu Québec 90, Québec 80, Québec 70. Est-ce qu'il y aura Québec 60, Québec 2000, Québec 2010?
On ne fera pas 2000 tout de suite, en tout cas, s'il y a prochain projet. Parce que je disais à quelqu'un, Michel Richard a peu moins à attendre que Marie-Mé. Là.
Mettons.
C'est une question de mathématiques
principe,
à un moment donné.
Ouais,
là.
Ouais.
Donc, si on ne veut pas que les gens meurent avant qu'on ait pu les rencontrer pour avoir des témoignages, on est mieux de reculer un peu. Parce que là, on ne fera pas Québec 30, puis la Bolduc, elle ne me rappellera pas. Là.
Non, je pense
donc,
pas.
Puis on verra plus tard les années 2000.
Un bouton
sur le bout de la langue.
Alors, à travers Québec 70, on sent l'humour, une tendresse aussi pour cette époque. Vous, comment vous la ressentez, cette époque-là?
Bien, c'est une époque effervescente. Moi, j'étais tout petit et mon père était très impliqué à l'époque au Parti québécois. Alors, il y a tout ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Tout ça est sur fond, même si le livre n'est pas politique ou sportif. Ce sont les deux sphères auxquelles on a moins touché. On voulait demeurer dans la pop culture.
Mm-hmm.
Il demeure pas moins que tout... tourne autour de cette espèce d'effervescence nationaliste, l'arrivée du PQ. C'est l'arrivée du PQ, ça veut dire aussi la création de passe-partout via le ministère de l'Éducation, l'arrivée à un gouvernement plus socialiste où on avait des gobelets de lait, des berlingots de lait gratuitement distribués à l'école, etc. Tout ça, c'est sous le gouvernement de l'évêque. Donc, ça vient pimenter un peu tout ça. Puis moi, dans ma tête d'enfant, mais moi, j'étais sur la montagne en 75, j'avais 3 ans, mais sur les épaules de mon père. Donc, et puis, ben voilà.
Hey, vous êtes chanceux. 3 ans, avez-vous un souvenir de ça? Ben...
J'ai pas de souvenir de ça. J'ai revu des photos. Je me souviens du pape au Parc Jorin en 84 parce qu'il pleuvait, puis on pouvait acheter pour 1 piastre un petit siège, un petit banc de carton dépliable qui a pris l'eau pendant la pluie, pendant la messe. Fait que je suis reparti avec mon banc tout mou. Mon bout de bain mouillé. Puis moi, tu sais, m'intéressais plus ou moins parce qu'on pense toujours à Céline et la Colombe au stade. La veille ou l'avant-veille, il était au Parc Jarry. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, c'était le show de Michael Jackson au stade 3 ou 4 jours après Céline puis le pape.
Êtes-vous allé?
Ben non, parce que j'ai foxé l'école cette journée-là. C'était en septembre 84 avec mon ami Eric. J'étais en secondaire 1, je pense, ou 2, pour aller écouter les répétitions par les piscines olympiques.
Oh, wow! Puis le son était quand même bon.
C'était très mauvais. De toute façon, il est mauvais même dans le stade pendant le show. Fait que ça change pas. Il y a un monsieur, un gardien de sécurité, qui a dit « Hey, c'est à soir le show. » On est parti en courant, puis on a... Je me plais à me dire que j'avais entendu les Jackson à travers la piscine.
Une super belle anecdote.
Ça, c'est les années 80. Oui. Alors ça, c'est plutôt l'autre livre, celui que j'avais fait avec Gérard.
Oui. Puis il y a même eu un quiz qui est sorti de
oui.
ça.
Oui. Mais moi, je m'amuse avec ça. Il y a eu un quiz 500 questions pour vos parties, pour les années fluo.
Je l'ai, c'est vraiment le fun.
Ça, tu vois, le temps des fêtes, on fait 2 équipes, on joue, puis on gagne une bouteille de Schnapps aux pêches.
Mais pourquoi pas? Avec bain de la glace, parce que c'est très sucré.
Ou du Goldschlager. Rappelez-vous de ça, c'était
Non, ça me dit rien.
Ben oui, c'était l'espèce de truc à la cannelle avec des feuilles d'or qui flottaient dedans. Oui, ça se fait à l'époque du Baby Doc. Là.
OK, oui. Vous en parlez justement de la nourriture de l'époque. On a parlé du poulet frit Kentucky, mais aussi des vins.
Des vins cheap peu.
Fufolet n'est pas là, mais il y en a d'autres sortes.
Il y en avait plusieurs et il y avait beaucoup. C'est l'époque du pari-pâté aussi. Là.
Ah oui.
Des sandwichs au pari-pâté avec de la moutarde baseball à l'école. Ou peu d'allergies. C'est une époque où il n'y avait pas d'allergies. Moi, je mangeais du de pinot à l'école. Je me souviens pas. Alors, je sais pas ce qu'on a mangé depuis 50 ans pour qu'il y ait autant d'allergies. Il n'y en avait pas quand j'étais petit. On ne parlait pas de ça. Je me souviens pas qu'un ami soit mort à côté de moi pendant que je mangeais.
Puis on fumait. On fumait
partout.
Nos parents fumaient dans l'auto.
Oui, complètement. J'ai eu un prof qui fumait, moi. J'ai un prof qui fumait au primaire. Oui, dans la classe. Comme on le voit dans le film 1981 de Troggi, de Ricardo Troggi.
Oui.
La prof jase aux enfants tout le temps. Alors, il y a un nuage de fumée au plafond. Puis, c'était l'époque où, pour la fête des pères à l'école, on faisait des cendriers. Pour la fête des pères, on fabriquait en céramique, en terre cuite, en poterie.
Ouais.
Alors, je me souviens, on va faire pour la fête des pères, tout le monde, les amis, on fabrique un cendrier.
Oui, vous parlez de cendrier. Justine Tachereau en parle dans les fausses bonnes idées parce que vous avez des top 3, c'est très amusant à lire.
Ah, oui.
Et il parle du cendrier, justement, là où on pesait sur une espèce de
plateforme tournante. Oui.
Moi, j'aimais ça faire ça.
Mais oui,
j'avais
ça allait trop vite. La cendre volait partout.
Oui.
Ah, mais ça, il y a eu aussi le nid à bactéries, là, des fameux tapis de toilette qui recouvraient même le... Il y en avait du tapis dans la salle de bain à ce moment-là. Nid à bactéries,
couleur
à l'eau, l'hygiène.
Puis aussi, mais on a entendu Plastique Bertrand, ça faisait partie de vos coups de cœur.
Oui, fin 70, vraiment. C'est l'époque disco et l'arrivée presque... que du New Wave à quelque part. Là, on est dans l'espèce de jonction. Oui, Plastique Bertrand,
puis un des coups de cœur de Justine Tachereau, je pense qu'on va terminer avec ça. Peut-être un extrait. C'est Christine Chartrand. On l'a, Mathieu? Les gars. Alors bien, je vous dis un grand merci.
Un
gros puis vous allez
merci.
Au Salon du Livre, Tristan?
Salon du Livre, Ghislain et moi en signature, certainement. Bon. Alors, pour les nostalgiques, j'appelle ça un déclencheur de mémoire.
Oui.
Et en ces temps, on a de la difficulté à se projeter dans le futur parce qu'on regarde les nouvelles puis ça va pas si bien que ça sur la planète. Bien, je trouve que c'est réconfortant.
Oui, pour les nostalgiques, mais aussi pour ceux qui sont curieux de ce qui se passait dans les années 70, même s'ils n'étaient pas là. C'est un livre d'histoire.
Bien, les profs d'histoire au secondaire l'achètent. Pour jaser avec les ados,
pour leur
montrer que ça existait avant qu'ils soient là.
Oui. Il y avait quelque chose qui se passait avant notre arrivée.
Ben
Québec
oui.
70 aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup,
Un
Tristan.
Gros merci, Hélène.
Vous écoutez au quotidien
avec Hélène Denis.
Amaro de Baby Club ou Baby Club.
Oui, premier extrait d'un album à venir. Anne-Marie Aubin, je ne sais pas, est-ce que vous êtes toujours au Nouveau-Brunswick, Anne-Marie?
Non, je suis rentrée chez moi hier soir.
Oh, vous avez l'avantage de vivre tout près?
Oui, heureusement.
Alors, aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre bouleversant, titre finaliste au prix littéraire Jeannette Bertrand et au rendez-vous du premier roman, Même pas morte, de Geneviève Rioux.
Oui, c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler et que j'avais hâte de lire. Puis en même temps que j'osais lire un petit peu parce ouais. que c'est quand même très dur comme histoire. Puis bon, ben, je comprends qu'il soit finaliste au prix littéraire Jeannette Bertrand qui va être remis, je crois, au Salon du livre parce qu'il est question de la situation des femmes dans celui-là. Et c'est un premier roman pour Geneviève Rioux et qui avait quand même publié de la poésie chez Mémoire d'Encrier. Une jeune autrice qui est née en 92, elle a grandi à Rimouski et puis elle a fait des études à Sherbrooke. Elle est doctorante en psychologie, mais son doctorat a été peut-être interrompu justement par des publications qu'elle a faites suite à une tentative de meurtre qu'elle a subie, une agression sexuelle. Puis dans ce livre-là, elle veut dénoncer la situation des femmes face à la justice, comment c'est difficile de se défendre dans une situation comme ça, parce qu'effectivement, les preuves sont difficiles. Hein? On n'a pas de film qui montre ce qu'on a vécu, il faut le raconter. Puis aussi, elle s'est trouvée avec des coups de poignard, je crois qu'elle a eu 18 coups de
c'est une survivante, cette femme.
C'est épouvantable. Alors, par ce drame-là, elle a décidé, suite à ça, d'écrire un roman qui est très, très inspirée de ce qu'elle a vécu, même si elle déplace toute l'histoire à Rimouski en 2016. Le soir du 27 mars, elle rentre, l'héroïne du roman, là, elle s'appelle Stéphanie, elle rentre du travail, elle travaille dans un resto, elle est dans son appartement et elle va être agressée. La personne va même tenter de la tuer, de l'étrangler. Tout ça nous est décrit. C'est vraiment descriptif. Et puis, on se dit, mais comment elle a survécu à tout ça? C'est vraiment un roman qui nous prend dès la première page avec un peu comme un polar, parce que même si c'est vécu, il y a toutes les enquêtes qui vont suivre. C'est un roman qui est divisé en quatre parties. La première partie s'appelle le post-mortem. Et la victime, qui s'appelle Stéphanie Cartin, une jeune fille qui étudie à Rimouski, qui travaille à Rimouski, raconte finalement dans les premières phrases, là, merde, je suis sur le palier de l'escalier. Elle se parle à elle-même, elle n'a plus de voix, elle est ensanglantée, puis elle s'est jetée par la fenêtre pour se sauver la vie, puis elle est tombée sur le palier d'escalier. Et là, bon, viennent ensuite les ambulanciers, les policiers, l'hôpital, les spécialistes, la travailleuse sociale. On rejoint sa famille, ses amis, des gens avec qui elle travaillait, sa psychologue. Tout y passe. Et elle raconte tout ça avec froideur, dans le plus petit détail. Puis, bon, ben, on dirait qu'elle n'a pas d'émotion. Puis là, ben, effectivement, c'est ça, son post-trauma, c'est d'être comme gelée dans cette affaire-là. Et puis aussi, ben, on apprend que quelques mois avant, elle avait subi du piratage informatique, harcèlement sexuel, de ses photos. Bon, bref, elle était déjà en thérapie pour cette espèce d'intimidation qu'elle avait vécue. Là, la deuxième partie s'appelle post-délictuel. Et là, on apprend que sa mère a vécu la même chose en 1999, alors qu'ils habitaient, elle et sa sœur et sa mère, elles habitaient au Témiscamingue, parce que sa mère était séparée de son père, je crois. Et là, donc, il y a 16 ans qui s'est écoulé, puis on dirait que c'est un peu de la même façon que ça s'est déroulé. Là, ben, on va lui dire, tu ne retournes pas à ton appartement, c'est trop dangereux pour toi. Il faut que tu vives dans un endroit secret. Alors, elle va aller vivre chez un couple de personnes âgées à Mont-Joli, donc pas très loin, mais tout ça est secret et elle change de voiture avec sa sœur pour que, justement, sa voiture ne soit pas repérée. Et on va trouver un suspect. On est rendu là. Là, je ne dévoilerai pas la suite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va reculer dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé cette agression-là? Qui as-tu vu? Qui étaient les gens autour de toi qui auraient pu être suspects? Parce que pour rentrer dans la maison comme ça, c'est sûrement lié à la personne qui a joué dans ton ordinateur puis qui a fait aussi des photos de toi et tout ça. Alors, ils font une recherche. Et là, elle fait le tour des gens qu'elle connaît. Puis nous, on se fait une idée aussi au fur et à mesure que ça se passe. Mais après, ce qui est difficile, c'est qu'on comprend qu'elle va contacter des organismes comme IVAC, CALAC, puis qu'il y a une lenteur, une très longue enquête, puis aussi, ils vont aller chez elle, toutes désinfectées, ils vont y envoyer une facture, elle n'est pas capable de payer ça, elle va demander d'avoir une aide financière. Bref, il y a plein de choses qu'elle doit régler pour la suite des choses, pour faire avancer l'enquête, mais elle est aussi surveillée, elle a un téléphone cellulaire où tous ses appels sont entendus. Bref, c'est comme un policier, finalement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est une situation qui est difficile, malgré la collaboration des policiers, des enquêteurs, de sa psychologue, des travailleurs sociaux. Tout ça, là, va prendre beaucoup de temps. Et là, donc, ça prend presque un an, finalement, avant que les choses commencent à se dénouer. Donc, c'est un roman qui est dur, oui, au début, c'est sûr.
Mais c'est un roman, mais c'est son histoire. Est-ce que c'est plutôt une autofiction?
Non, parce qu'elle a vraiment déplacé les choses. Toute l'action se déroule à Rimouski, d'ailleurs, et on reconnaît les lieux. Quiconque est allé à Rimouski connaît la brûlerie, la microbrasserie, le nom des rues, l'avenue de la cathédrale. Toute l'action est située là, alors qu'elle, elle a vécu probablement différemment à Sherbrooke. Et puis aussi, ben les gens autour, elle lui a créé un emploi, elle travaille dans une école, bon bref.
Mais c'est inspiré grandement de sa vie, là, de oui, ce qu'elle a vécu.
Oui, parce que finalement, quand tu vis ça, tu as ce drame-là, puis tu dois l'exprimer. Mais elle avait déjà fait une publication où elle avait raconté tout ça d'une manière poétique, ouais, chez Mémoire d'Encrier, puis elle avait fait des spectacles où elle, mm-hmm, faisait la première partie de David Gautreau.
Son conjoint.
Oui, elle récitait ça, ça s'appelait Survivage. Oui, c'est ça.
Oui, je l'ai d'ailleurs vu, ce spectacle-là, là, puis on est sans voix.
Ben, exact. Alors, donc, c'est comme une deuxième étape après avoir fait ça. Il ne faut pas oublier que cette fille-là étudie en psychologie. Donc, elle est sensible à un certain nombre de choses dans sa manière d'écrire. Et on voit, par exemple, il y a des pages où c'est écrit, par exemple, 180e rencontre avec ma psychologue. Un autre, ça va être 14e jour de médication. Donc, au lieu de mettre des dates tout le temps puis de répéter, elle a donné des indices temporels comme ça dans le temps qui passe jusqu'à la fin du livre. Et puis, on avance dans le temps. Mais de temps en temps, il y a des bouts où on retourne dans le passé pour essayer de comprendre. Alors, l'héroïne, qui s'appelle donc Stéphanie Gardin, a un milieu, de parents et d'amis autour d'elle, qui vont vraiment l'aider à avancer, je dirais pas à guérir, mais au moins à avancer dans cette espèce de convalescence. Des amis avec qui elle travaillait, des collègues qui sont à l'école, sa famille, mais elle ne doit rien dire dès qu'il trouve un suspect, parce qu'elle doit garder ça secret. Puis ça, c'est difficile pour sa famille et pour les proches, mais ça reste comme ça. Et à chaque fois qu'il est question de cette héroïne, la narration est à la troisième personne. Donc, elle fait ça ou tu fais ça, mais c'est jamais elle qui dit « je ». Et quand on parle de l'agresseur, on l'appelle « toi », c'est-à-dire « t-o-e » accent aigu. C'est un ton vraiment plus agressif parce que finalement, effectivement, c'est la personne qui l'a agressée, qui a tenté de la tuer puis qui voulait la violer. Donc, évidemment…
On la méprise. Cette personne.
C'est ça, puis on sent que le ton change parce que elle sait pas c'est qui, puis elle dit toi, là, qu'est-ce que t'en penses de ça, mais c'est toujours en lien avec cette personne-là. Et elle a été très, très, très courageuse, l'héroïne, parce que dès le début, je la cite, tu étais là pour la violer. Rien ne garantissait que tu ne la tuerais pas si elle te laissait faire. Alors elle a tenté de t'agripper. N'y parvenant pas, elle t'a envoyé contre le mur de ses deux jambes. Elle s'est relevée et a pris la fuite. Puis c'est prise au piège qu'elle va se jeter par la fenêtre, puis que là, elle est en morceaux. Et quand elle arrive à l'hôpital et qu'ils appellent ses parents, tout ça, les gens disent qu'ils allaient avoir un choc en la voyant. Elle a des cheveux agglutinés dans le sang, elle a des coupures partout. Alors, ils préparent les gens, ne criez pas en la voyant, là. Elle ne s'est pas vue elle-même encore, là. Puis là, bon, ben, il va y avoir plein de points de suture. Puis elle va aller chez la coiffeuse essayer de faire enlever ces plaques de sang. C'est vraiment...
Ça doit être tellement difficile à lire. Mais difficile à vivre, ça, c'est clair et net, là. C'est d'une cruauté absolue. Mais la lecture de ce livre-là, qu'est-ce que ça apporte?
Ben, en fait, moi, j'avais peur que je trouve ça dégueu et tout ça. Mais au contraire, c'est comment on va développer une empathie pour ces personnes-là. Puis on n'a pas idée de toutes les étapes qu'elle doit passer là, pour arriver à ce que ça débouche vers une enquête. Et là, on comprend combien la justice, c'est une justice, en fait, on comprend combien il y a du travail à faire pour aider les femmes victimes de violences, comme c'est le cas de cette héroïne-là. Et elle, ce qui est étonnant par rapport à la plupart des victimes, c'est qu'elle s'est défendue. Elle est sortie de là. Elle n'est pas morte. Puis c'est pour ça que ça s'appelle même pas morte. C'est qu'en fait, c'est comme un viol raté, un crime raté, puis qu'elle a été là-dedans, incroyable. Et les gens disent, on ne sait pas comment t'as fait pour te sortir de là, parce que quand même, le garçon, il était costaud, là. Puis elle l'entend, mais il y a une cagoule. Donc, elle ne peut pas le reconnaître. Et c'est sûr que c'est pas une histoire joyeuse, mais en même temps, c'est quelque chose, comment je dirais, qui nous permet de mieux saisir la fragilité de la situation des femmes dans la société, puis combien c'est bon d'être toujours avec quelqu'un. Elle est jeune, ma fille, là, quand ça lui arrive, tout ça, puis ça nous met, on sait tout ça, mais ça nous met en contact avec une réalité, puis qui est vécu de mère en fille en plus, là, parce qu'à un moment donné, sa mère vient puis elle pleure parce qu'elle dit pas toi encore. Et là, c'est la victime qui la prend dans ses bras puis qui dit « Ses bras viennent entourer ceux de José, sa mère, un coquillage recouvrant une perle. » Il y a beaucoup d'affection, de tendresse malgré tout dans cette histoire-là.
Et elle écrit bien, Geneviève Rioux, là, c'est une poète.
Oui, voilà. Alors donc, puis elle a été encadrée par David Goudreau aussi. Donc, on comprend que l'écriture a été travaillée et ça, c'est pas le carnet des secrets de cette victime, c'est plutôt toutes les démarches. Et il y a des pages où il y a juste une date avec du vide, que ça avance pas.
Ça parle, oui, oui.
Alors, donc, ça se lit très rapidement, puis c'est les premières pages, effectivement, sont très crues. Puis le reste, moi, j'ai vu ça vraiment comme une réflexion. J'ai appris beaucoup sur tout ce qu'il y a autour de ça. Comment c'est long, la réparation, puis est-ce qu'on se répare, là? Mm-hmm. Ça reste à savoir. Mm-hmm. Et cette personne, l'autrice dans la vraie vie, là, ben, elle donne des conférences, elle donne des ateliers d'écriture, et je crois que dans son cas, à elle, la création et l'écriture a été une façon de se réparer, de se reconstruire.
Une thérapie.
Oui, puis elle dit finalement vers la fin que elle dit « Par les livres, la justice trouvera son chemin, l'aube d'une réparation. » C'est la dernière phrase du livre. Alors, on comprend qu'il fallait qu'elle écrive ça. Et puis, je pense que si on est prêt, parce qu'il faut être prêt à lire ça, là, je pense qu'on comprend beaucoup le système judiciaire. Les organismes, à la fin, sont nommés. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui subit du harcèlement comme ça, ben, allez voir CALAX, CAVAC et le CJR. CSJR, c'est le Centre de services de justice réparatrice. Donc, c'est aussi un outil, ce livre-là, en plus d'être l'histoire transposée d'un drame que l'autrice a vécu. Puis c'est une beauté de fille. Quand on la regarde, on dit « Mon Dieu, Seigneur, c'est terrible comment elle arrive maintenant à être souriante et à jouir de la vie quand même. » C'est comme beaucoup d'espoir aussi que dans ce livre-là, parce que la personne ne s'en est vraiment sortie. Ça a pris beaucoup de temps, peut-être. Mais justice, c'est fait, finalement. Alors, je le recommande parce que je vois qu'il est finaliste à deux prix. Et puis, dans les rendez-vous du premier roman, ça, c'est des clubs de lecture qui discutent des romans qui sont en lice, et je me dis que ça fait le lieu de discussion. Et dans le prix littéraire, Jeannette Bertrand, même si c'est pas la lauréate, elle fait partie de ces livres qu'on juge intéressants et importants pour l'avancement des femmes dans la société. Alors, pour ces deux belles raisons, je crois que ce livre vaut la peine d'être lu.
Essentiel. Même pas morte par Geneviève Rioux aux éditions Stanquet dans la collection Poésie. Et Geneviève Rioux a été l'invitée de ma collègue Marjorie Théodore, l'animatrice de Vivement les femmes. Ça s'est passé le 18 janvier 2023. Avez-vous intéressé? Vous allez retrouver cette entrevue sur notre site Internet. Merci beaucoup, Anne-Marie. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
We'll be right back. je me retrouve, d'autres fois je me repère. Quand je suis tout croche, cherche un moyen de passer à travers, puis y voir clair. Et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, qui fait que je me retrouve encore ben en vie. Un gros flash monte dans un coin de ma cage thoracique. Comme un cadeau, un beau grand voyage au Mexique. Puis là, je dis waouh, veux-tu bien me dire ce que je fais ici? Tu vas me dire ce que je fais ici? Tu vas me dire ce que je fais ici?
Bon, jusqu'à la dernière goutte.
Oh là là, on la rejoue.
Okay.
On la refait jouer.
Présentez-la.
C'était le gros flash mauve de Plume la Traverse.
Et la voix féminine au début, celle de Fabienne Thibault. Et on en parlait tantôt de Plume la Traverse en compagnie de Tristan Demers qui est venu présenter le livre Québec 70 avec Ghislain Tachereau. Ce sont les deux qui ont écrit et illustré et travaillé sur ce livre. Et puis, il me disait que Ghislain Tachereau avait fait de belles entrevues surprises, notamment une avec Plume la Traverse. Actualité, Santé Québec lance un appel au calme au moment où la colère gronde dans le milieu médical depuis l'adoption sous bâillon de la loi 2. Geneviève Biron demande aux employés, y compris les médecins, de maintenir un climat serein pour préserver la stabilité. La grande patronne de la Société d'État a fait parvenir mardi aujourd'hui une note à l'ensemble des quelque 330 000 travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux au moment où l'adoption de la loi spéciale du gouvernement Legault pour revoir le mode de rémunération des médecins et les dissuader de quitter le Québec continue de faire des remous. Nous sommes tous au fait de l'actualité des derniers jours et constatons que l'adoption de la loi 2 suscite des réactions et des interrogations. En ce moment, plus que jamais, il est essentiel de rester unis, d'aller de l'avant avec calme, d'être à l'écoute tout en faisant preuve de bienveillance envers nos collègues ainsi que nous-mêmes, écrit Geneviève Biron dans une note que la presse a pu consulter. Tous ensemble, maintenons un climat serein et respectueux dans nos milieux de travail. Pour ce faire, nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour préserver cette stabilité, ajoute-t-elle. Depuis vendredi, le moral des troupes est au plus bas dans le réseau, selon nos informations. Des médecins ont d'ailleurs manifesté aujourd'hui devant l'Assemblée nationale alors que les parlementaires siègent à Québec. La Fédération des médecins spécialistes du Québec tient aussi une conférence de presse dans la capitale nationale aujourd'hui. Dans sa missive, Santé Québec admet par ailleurs qu'elle est elle-même toujours à analyser la portée de la loi 2 et d'en dégager les grandes lignes concrètes pour son organisation. Bonne nouvelle en terminant, Léa Poul recevra l'Iris hommage lors du premier gala Québec Cinéma. La cinéaste, à qui l'on doit notamment Emporte-moi et La Passion d'Augustine, sera honorée le 7 décembre lors de la cérémonie de remise de prix pour souligner ses 45 ans de carrière. Lors des deux dernières années, ces prix avaient été remis à Denis Villeneuve et à Rémi Girard. Dominique Dugas, directeur général de Québec Cinéma, a souligné que partout dans son œuvre, Léa Poul avait posé un regard sensible et humaniste, ajoutant qu'elle avait ouvert la voie à de nombreuses créatrices québécoises. La remise de l'Iris Hommage 2025 à cette grande cinéaste vient reconnaître l'apport au cinéma et à la Société québécoise d'une artiste dont la voix résonne toujours avec autant de justesse et de profondeur. D'ailleurs, il y a un film d'elle qui va sortir bientôt, inspiré de l'œuvre de Michel-Marc Bouchard. Je me rétracte. Oui, Léa Poule va bientôt sortir « On sera heureux », c'est le titre de son film. Et ce n'est pas inspiré d'une œuvre de Michel-Marc Bouchard, mais Michel-Marc Bouchard a signé le scénario de ce film qu'on verra certainement et dont on vous reparlera. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier, puis je vous retrouve demain. C'est un rendez-vous, 9h30.